Et nous recevons à l'instant Fabrice Nicolino qui vient de nous rejoindre. Son livre, peut-être l'appellera-t-on le livre à scandale, qui a tué l'écologie. Avec nous pour animer ce débat, cedurable.info, représenté par Cyril Souche. Rebonjour dans la journée, deuxième plateau avec vous. On écoutera des extraits et nous écouterons aussi parler Marie-Monique Robin qui est en Belgique, qui ne pouvait pas être présente avec nous, mais qui sera présente avec nous au téléphone et nous débattrons des pesticides, de la malbouffe, de tout ce qui nous empoisonne. Je vais vous laisser la parole, Cyril Souche.
Oui, bonjour Fabrice Nicolino. On est très très heureux de vous recevoir. Moi, je ne m'entends pas dans le casque, mais je ne sais pas. Oui, voilà, super. Donc, je disais qu'on est très très heureux de vous recevoir. C'est durable.info. On a été parmi les privilégiés à recevoir ce livre, hein, qui a été à la fois une claque et sans doute quelque chose qui nous a secoué, mais qui est, vous allez nous l'expliquer, je pense, salvateur, de remettre en cause des certitudes, des sortes d'icônes, de grandes associations comme Greenpeace, comme WWF, comme la Fondation Nicolas Hulot, comme France Nature Environnement, qui pour nous étaient des gages absolument objectifs de crédibilité, de légitimité. Et là, on reçoit un livre, Qui a tué l'écologie, et ces quatre associations sont mises en accusation. J'aimerais commencer, avant de vous donner la parole, par une petite phrase, moi, qui m'a fait éclater de rire nerveusement. Et puis, je vous laisserai là. Elle est extraite de votre livre. Vous dites « Le désastre est partout, même si les chaînes de télévision et les propagandes associées parlent encore de vacances à la mer ou à la montagne, du dernier colis fiché, des courses automobiles et du tennis, des bisbilles électorales entre machin et truc ou machine et truc. » L'image qui s'impose à vous, dites-vous, est celle d'une famille de chez nous, grignotant un joyeux pique-nique sur la plage, le dos au tsunami qui approche. On se dispute, l'un reproche à l'autre d'avoir oublié le sel et les deux finissent par mettre une torgnole au gosse qui vient de laisser tomber le jambon dans le sable, tandis qu'ils déplient leur nappe, pendant qu'ils se pourlèchent les babines une dernière fois, la vague s'apprête à déferler. Est-ce que c'est votre regard sur la situation de notre planète ?
Oui. La vérité, c'est que c'est exactement ce que je pense de ce que nous vivons. C'est pas très joyeux, il faut bien le dire, mais ce serait encore pire, je crois, de l'ignorer. Ce qui me frappe, en fait, une des raisons profondes pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que j'observe cette crise écologique depuis longtemps. C'est le privilège de l'âge que j'ai aujourd'hui. Et quand le mouvement écologiste s'est développé en France, il y a une quarantaine d'années, la crise apparaissait, elle n'était pas, mais elle apparaissait localisée, et on pensait de bonne foi, je pense, moi-même j'ai pensé d'ailleurs, qu'on pouvait finalement utiliser une rustine par-ci, une rustine par-là pour régler des problèmes dont on pensait locaux. On imaginait à l'époque sauver une vasière, une rivière, un coin de côte, un bout de forêt. Et on n'avait pas du tout la perception, finalement, des liens profonds qui unissent tous les écosystèmes de la planète. Et 40 ans plus tard, au fond, ce qu'on voit, c'est que toutes les crises écologiques éparses, éparpillées, se sont connectées les unes aux autres et forment, à mon avis, en tout cas, une seule et unique crise majeure, inédite dans l'histoire des hommes. Je rappelle quand même qu'on est présent, enfin que l'espèce humaine considère qu'elle est présente sur Terre depuis 2 millions d'années. Moi, je pense que la crise à laquelle nous sommes confrontés est sans précédent depuis 2 millions d'années, depuis le début de notre présence sur Terre. Et on voit bien que la crise semble sur le point d'échapper finalement à toute tentative de contrôle des humains. La crise des océans, vous le savez comme moi, d'ailleurs, tout le monde le sait. La crise des océans, la crise des forêts, la crise des sols arables, la crise de l'eau, la crise climatique, la crise démographique, et j'en passe beaucoup d'autres. Mais ces crises se sont connectées. C'est ça qui est le plus important, je crois. Par exemple, pour prendre un exemple que tout le monde va comprendre, moi, je suis terriblement frappé par la crise des océans. Peut-être parce que je me sens lié, j'adore la mer, disons-le franchement et simplement. Et en un siècle de pêche industrielle, pas plus, des équilibres alimentaires qui étaient stables depuis des millions d'années sous les mers, ces équilibres alimentaires ont été rompus sur des surfaces géantes, sur des millions de kilomètres carrés. Vous connaissez sans doute l'exemple de la morue de l'Atlantique Nord. Ce poisson était formidablement abondant il y a encore quelques dizaines d'années. Bon, et il a intéressé les pêcheurs d'Europe dès le 15e siècle, qui se sont précipités par exemple sur les bancs de Terre-Neuve. Donc il y a eu une surexploitation de plus en plus vive à mesure qu'on trouvait des engins industriels de plus en plus sophistiqués. Et un triste jour des années 80, on s'est rendu compte que les stocks baissaient dangereusement, au point que le ministère canadien de la pêche, en 1993, a décidé un moratoire. Il a annoncé tout simplement qu'on ne devait plus pêcher la morue, qui avait été le poisson sans doute le plus pêché au monde pendant des siècles. À ce moment-là, évidemment, les Canadiens, ça représentait environ 40 000 emplois, figurez-vous, c'était pas rien. Donc les gens se sont dit, mais les pêcheurs et tous ceux qui vivaient de la pêche et des produits de la pêche ont dit, mais c'est fou, il faut absolument pas prendre cette décision, c'est dramatique pour nous. Le ministère canadien n'a pas cédé, a dit, on arrête la pêche. On était en 1993, donc si je ne m'abuse, il y a 17 ans. Et on pensait naïvement, parce que les hommes que nous sommes tous sont naïfs, on pensait que la morue allait revenir de manière mécanique. On arrête la pêche, on éteint un bouton, on arrête la pêche, les poissons reviennent, on recommence à pêcher, et ainsi de suite. Sauf que le moratoire a été décrété et la morue n'est jamais revenue. Parce que les chaînes alimentaires dans ces régions ont été totalement bouleversées. Les niches écologiques qu'occupait la morue ont été remplacées par d'autres espèces. Et 17 ans après le début du moratoire, la morue n'est toujours pas revenue. Et on craint aujourd'hui qu'elle ne revienne jamais, jamais. À l'échelle humaine, je veux dire. Et donc c'est ça pour moi, si vous voulez, vraiment ma vision générale, c'est que nous, on est vraiment confronté à quelque chose de si grave et de si immédiat qu'il faut imaginer des solutions nouvelles.
Voilà. Vous parlez notamment d'effondrement des écosystèmes, donc qui sont interdépendants les uns les autres. Est-ce que vous êtes, comme certains, capable d'aller jusqu'à parler de sixième extinction qui est en cours,
ou est-ce... Écoutez, c'est pas mais bien sûr que je suis capable de le dire, d'autant plus qu'il y a un consensus mondial chez les biologistes qui sont spécialisés dans la biodiversité, dans la diversité biologique sur Terre. On peut parler d'un consensus, exactement comme il y a un consensus sur la crise climatique autour des travaux du GIEC. On peut parler d'un consensus autour de l'idée que la planète vit la sixième crise d'extinction des espèces. La dernière, c'est, je le dis pour vos auditeurs, la dernière crise d'extinction massive des espèces sur Terre, c'était au moment de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Et en plus, en outre, cette sixième crise d'extinction des espèces est beaucoup plus rapide, beaucoup plus massive, beaucoup plus finalement inquiétante que les précédentes. Et on est les contemporains de cette crise. Elle est documentée, c'est pas une divagation d'écologistes, elle est certaine. Tout le monde le dit. Je me souviens par exemple d'une conférence à laquelle j'avais assisté en 2005, qui avait été inaugurée en fanfare par le président de l'époque, Jacques Chirac, à l'UNESCO à Paris. Bon, ce que je vous dis là, le président Chirac l'avait dit à l'époque en 2005. Il y a consensus, je le répète. Donc oui, nous vivons la sixième crise d'extinction massive des espèces sur cette Terre. Les conséquences sont proprement inimaginables. Je pense qu'elles sont pratiquement pas compatibles avec les limites de l'esprit humain. L'esprit humain n'arrive pas, à mon avis, à concevoir l'immensité des conséquences d'un phénomène comme celui-là.
Alors c'est le climat, c'est l'extinction de la biodiversité. Le facteur commun, c'est l'homme.
C'est pas l'homme en soi. Je veux dire, l'homme est là, je l'ai dit, il est là depuis 2 millions d'années, donc il s'est bien passé quelque chose. Que s'est-il passé? C'est toute la question, c'est tout le questionnement finalement sur la situation où nous sommes aujourd'hui.
L'économie alors peut-être?
Oui, je veux dire, que s'est-il passé au fond depuis 2 siècles sur cette Terre, en tout cas dans la partie occidentale de cette Terre, une révolution industrielle tout à fait extraordinaire qui nous a enrichis d'une manière spectaculaire et qui en même temps a créé un système industriel, un système de production des objets et de consommation matérielle sans aucun précédent dans l'histoire des hommes. Je pense que ce système s'est tout simplement affranchi de toutes les possibilités de contrôle humaines. Et c'est le principe du monstre de Frankenstein qui échappe à son créateur. En fait, nous avons créé des machines qui sont a priori magnifiques. La machine à vapeur, on va pas dire la machine à vapeur, c'est monstrueux. Ça a aidé énormément de gens à faire énormément de choses, bien entendu. Mais en même temps, il y a un phénomène d'emballement. On le voit très très bien au travers par exemple des nanotechnologies aujourd'hui. On se lance sans cesse dans des aventures de plus en plus extrêmes sans avoir aucun moyen de contrôler les conséquences de ce qu'on fait. Et donc, ce qui est en cause, pour répondre à votre question, je pense que c'est en effet l'économie directement, c'est-à-dire l'économie qui est synonyme finalement, qui est pratiquement synonyme d'organisation sociale aujourd'hui, qui est aussi synonyme de système industriel. Et je pense, moi, que la question posée, c'est pas la question de telle ou telle forme politique, de telle ou telle manière de gérer les affaires humaines, c'est véritablement l'existence en soi du système industriel qui a complètement inféodé la science et la technique et qui est devenue une machine absolument folle. Et la question qui se pose, qui est une question terrible et très 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 difficile à résoudre pour nous les humains, et quand je dis nous les humains, c'est bien entendu pas seulement les écologistes, c'est tous les humains sur cette terre, la question est de savoir si on va pouvoir reprendre le contrôle de cette machine. Et pour reprendre le contrôle de cette machine complètement folle, à mon avis, il n'y a qu'une solution, c'est de se débarrasser. Vous allez dire que c'est beaucoup plus facile d'en parler que de le faire, et c'est vrai. Mais la seule solution que moi je suis capable d'envisager, c'est en effet la destruction du système industriel et donc la refondation d'un système de production et de consommation qui soit à portée des humains.
Alors c'est paradoxal parce que jusqu'à présent, ce que vous dites et toutes ces alertes, tous ces indicateurs au rouge, ce sont souvent les associations qui dénonce l'érosion de la biodiversité pour le WWF, la déforestation pour France Nature Environnement, le fait de constater cette érosion, cet effondrement des écosystèmes et cette situation grave que vous décrivez a jusqu'à présent été porté à la connaissance du public par des associations. Et ces associations, vous avez enquêté notamment sur les principales, celles que nos auditeurs connaissent le mieux. Et vous êtes allé raconter et révéler pour la première fois l'histoire de ces associations, les histoires et les coulisses de ces quatre principaux acteurs de l'écologie en France, hein, la bande des quatre. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Bon, d'abord, je tiens à dire, parce que c'est vraiment très important, même si le malentendu est sans doute fatal, je ne suis pas porteur de haine, je veux dire, je cherche pas à zigouiller des individus. J'appartiens en fait à ce mouvement depuis presque toujours. Je suis membre actuellement d'une association de France Nature Environnement qui s'appelle Bretagne Vivante, donc je ne suis pas dans la haine. J'ai fait un travail sérieux, documenté. Et d'abord, il y a un phénomène général qui touche toutes les institutions humaines. C'est tout simplement des phénomènes d'institutionnalisation, de notabilisation. Et vous prenez n'importe quelle institution humaine, c'est fatal. Au bout d'un certain temps, ces phénomènes apparaissent. Donc ce mouvement a 40 ans. En effet, beaucoup de leaders, des bureaucraties dirigeantes de ces associations sont devenus des notables. Ils adorent être fêtés, ils adorent recevoir des légions d'honneur. Et beaucoup ont reçu la légion d'honneur. C'est peut-être pas une infamie, mais c'est en tout cas un fait. Beaucoup ont mangé avec appétit des petits fours dans les salons ministériels. Certains ont obtenu des postes au Conseil économique, social et environnemental, ce qui représente une certaine manne financière, faut le dire sans hésitation, c'est la vérité. Bon, ça, c'est des phénomènes relativement ordinaires, qui sont tristes, bien sûr, et je crois qu'il faut les critiquer parce que nous n'avons plus le temps de rigoler et de perdre. Nous n'avons tout simplement plus le temps. Donc, il faut agir maintenant. En dehors de ça, ce que j'ai découvert, en effet, des choses que je ne soupçonnais pas.
Nous non plus, d'ailleurs.
Oui, mais je veux dire, par exemple, prenez l'exemple du WWF, qui est le panda, donc qui a une très bonne réputation en France. Donc, je connais bien son directeur général en France, Serge Auru. Je dis, l'amitié pour aller vite que j'ai pour lui. Néanmoins, le WWF a une histoire tout à fait chaotique, absolument étonnante, et a parti lié, historiquement, par exemple, avec le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, ce qui est sidérant, mais c'est la vérité. Le vrai fondateur du WWF international est un Sud-Africain, Anton Rupert, qui est un milliardaire qui est mort à l'âge de 89 ans il y a quelques années, en 2006. Anton Rupert a fait financer le WWF international par des personnalités comme l'ancien dictateur du Zaïre, Mobutu, ou bien le grand responsable des bombardements militaires américains sur le Vietnam dans les années 60 et 70, Robert McNamara. Et puis, on pourrait dire aussi que son premier président, le prince Bernard des Pays-Bas, on a découvert sur le tard qu'il avait été un militant du parti nazi. Bon, on peut dire que c'est du passé. Moi, je pense que c'est très, très important de connaître son passé, parce que si on ne connaît pas son passé, on a peu de chances de réussir son avenir. Mais admettons que ce soit du passé. Ce qui est absolument affolant à mes yeux et absolument insupportable, c'est que le WWF aujourd'hui a des liens, mais absolument consanguins avec la grande industrie transnationale, avec des entreprises aussi contestables que Monsanto, hein, que beaucoup de vos auditeurs connaissent, bien sûr. Et le WWF sert de caution dans des tables rondes. Alors, c'est un peu compliqué, mais je vais aller vite. C'est des espèces de réunions informelles. On se met autour d'une table, c'est des tables rondes. Il y a les industriels, pour l'essentiel, il y a les industriels d'un secteur et le WWF, qui sert donc de caution écologique. Et on se met autour de la table pour essayer de trouver un label commercial permettant à ces industriels de vendre des produits qui sont affreusement contestables sur le plan écologique et sur le plan social et sur le plan humain. Je prends deux exemples. Le soja, bon, le WWF siège dans une commission, dans une table ronde avec Monsanto et d'autres industriels pour créer au profit de l'industrie et au seul profit de l'industrie, un label soi-disant soutenable, soi-disant durable de soja qui, dans la réalité, est très largement transgénique et qui contribue très largement en Amérique latine à détruire d'immenses espaces qui sont très riches sur le plan de la biodiversité, forêt tropicale, le Cerrado qui est une zone de savane très très riche sur le plan de la biodiversité au Brésil. Et c'est le cas pour le soja, c'est le cas pour les biocarburants. J'avais dit deux exemples, il y en a au moins un troisième, c'est l'huile de palme. Le WWF siège avec les industriels de l'huile de palme pour essayer de définir un label qui permettrait aux industriels de dire « Voyez, nous, on produit de l'huile de palme écolo ». Sauf que grâce au soutien du WWF, ces industriels, aujourd'hui, au moment où je vous parle, bien sûr, c'est lointain, mais moi, je pense à ces gens-là, je pense aux travailleurs du Sud, je pense aux paysans du Sud. Et au moment où je vous parle, grâce au WWF, il y a des paysans dans des pays comme la Malaisie ou l'Indonésie qui travaillent dans des plantations de palmiers à huile, en utilisant des pesticides qui sont rigoureusement interdits dans toute l'Union européenne parce qu'ils sont affreusement dangereux pour les hommes et pour tous les organismes vivants. Je n'en citerai qu'un seul, le paraquat, qui est un poison épouvantable et dont les liens avec l'apparition dans certains cas de la maladie de Parkinson sont désormais hautement probables. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est interdit dans l'Union européenne. Le WWF, donc, pour des raisons vraiment, moi je dirais franchement de décadence morale, disons-le, là je suis très accusateur, pour des raisons de décadence morale, mais qui à mon avis renvoie à son histoire première, hein, accepte de jouer un rôle que je trouve franchement révoltant, absolument révoltant. Pour les autres, c'est différent, c'est sans doute d'une autre nature, mais c'est des phénomènes quand même de dégénérescence très nette. Greenpeace, par exemple, que tout le monde considère comme l'organisation, vertueuse par excellence, est désormais en France, par exemple, et c'est très largement vrai ailleurs, dirigé, par exemple, en France, ce n'est pas un secret, je peux le dire, le directeur actuel de Greenpeace en France, Pascal Hosting, est un homme un luxembourgeois, ce qui est fort bien, mais il a été recruté donc par Greenpeace pour être le directeur en France, parce qu'il était financier au Luxembourg et qu'il a à ce titre conseillé des entreprises transnationales pour des placements offshore d'optimisation fiscale. C'est lui-même qui le dit. Je veux dire, c'est pas moi qui suis en train de l'inventer. C'est-à-dire, il a été recruté pour cette raison-là. Et en effet, ayant été recruté sur la base de ses compétences financières, il a en effet obtenu des résultats importants sur le plan financier.
En matière de collecte de fonds pour...
Pour la collecte de fonds, notamment, pour ce qu'on appelle dans le jargon de Greenpeace le fundraising, et qui permet à Greenpeace de gagner de l'argent en mettant en scène des opérations qui, moi, sont... pour moi, sont à la limite du publicitaire et de la communication. Il n'y a plus d'adhérents ou de militants au sens qu'on accorde à ce mot dans le passé en France. On a des donateurs qui payent finalement pour regarder des images à la télévision. Parce qu'au fond, c'est ça, l'échange de procédés, c'est ça. Greenpeace monte des opérations spectaculaires. Il y a des images qui sont refilées gratuitement à la télévision, qui passent sur toutes les chaînes de télévision. Et il y a des donateurs éblouis qui envoient des chèques tous les mois. Est-ce que cela fait avancer la cause dont je vous ai parlé? Moi, ma réponse personnelle est absolument clairement non. Et je vous expliquerai encore plus clairement pourquoi tout à l'heure.
Si WWF ne siégeait pas dans ces compagnies
nationales,
ce serait peut-être pire.
Non, je ne crois pas du tout que ça serait pire. D'abord, alors ça, c'est vraiment, c'est vrai, ça, c'est le point clé finalement. Parce qu'au fond, vous connaissez comme moi, d'ailleurs, ce salon lui-même reprend l'expression en partie. Il y a une expression qui est une expression fétiche, qui est née au milieu, enfin qui avait été pensée avant, mais qui est vraiment née dans la réalité au milieu des années 80, qui s'appelle le développement durable. Alors ça, c'est une expression magique, puisque tout le monde se retrouve derrière cette expression, les grands industriels, les associations écologistes, les journalistes, les politiques, bien sûr, tout le monde est d'accord pour faire du développement durable, et vous ne trouverez plus personne sur cette terre qui ne fasse pas du développement durable. C'est assez étrange, au moment même où la planète vit une crise écologique sans précédent, et où des écosystèmes sont menacés d'effondrement, c'est tout de même étrange que tout le monde se montre d'accord autour d'une expression passe-partout qui s'appelle le développement durable. Et les associations écologistes, évidemment, sont derrière aussi cette expression. Or, moi, en enquêtant, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement intéressant et de tout à fait instructif, c'est que l'expression, elle a été pour l'essentiel forgée par un homme. C'est pas, je veux dire, je l'accuse pas je ne cherche absolument pas à le diaboliser, parce qu'en fait, il s'est pas caché, hein. Simplement, on n'en parle jamais. Mais bon, moi, j'ai décidé d'en parler. Donc, cet homme est un Canadien qui s'appelle Maurice Strong. Maurice Strong, c'est un personnage clé de l'histoire moderne de l'humanité entière. Si vous me permettez, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est un homme il a 82 ou 83 ans aujourd'hui. Mais il est toujours très actif, notamment en Chine. Il a été patron longtemps de Petro-Canada, qui est une transnationale du pétrole au Canada. Il a été patron de d'autres transnationales canadiennes. Donc c'est un homme des transnationales. C'est pas une honte, mais c'est un fait, il faut le dire. Donc c'est un homme des transnationales, mais c'est aussi un homme qui, dès les années 50 du siècle passé, a pris de l'importance et de la puissance dans les coulisses des Nations Unies. Et probablement qu'il a compris bien avant tout le monde que la question écologique devenait une préoccupation et donc avait de plus en plus d'importance pour les entreprises et pour les industriels auxquels il était très lié. Et Maurice Strong a été le premier secrétaire du programme des Nations Unies pour l'environnement, tout en étant patron de transnational, c'est assez singulier. À ce titre, il a été le créateur du premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972. Ça nous rajeunit pas. Il a été aussi l'organisateur pour le compte des Nations Unies du sommet de la Terre de Rio en 1992, tout en étant patron de transnational du pétrole. Et par ailleurs, il a eu des responsabilités importantes au WWF États-Unis, et il a les meilleures relations du monde avec Greenpeace. Et là, on voit bien au travers de cet exemple que l'expression développement durable, donc, qui a été forgée par Maurice Strong, il a participé à la commission qui a popularisé cette expression dans le monde entier, la fameuse commission Brundtland en 1987, qui a donné naissance à ce qu'on a appelé le rapport Brundtland sur le développement durable. On voit bien que des hommes comme Maurice Strong et certains de ses amis, comme, bon, je ne vais pas insister, comme Stefan Schmidheiny, qui a été son secrétaire particulier pour le sommet de Rio et qui tire toute sa fortune de l'industrie de l'amiante, hein, responsable de milliers et de milliers de victimes sur Terre. On voit bien que ces gens, finalement, peut-être avec une part de sincérité, je ne veux pas le contester, je n'en sais rien, mais en tout cas, ils ont capturé l'aspiration des humains à changer les choses, à changer l'ordre des choses, et en mettant en avant l'idée de développement durable au service des intérêts des transnationales, ils ont réussi, à mon avis, une sorte de hold-up sémantique, un hold-up extraordinaire sur une expression qui a troublé l'esprit de tout le monde et qui fait croire à beaucoup de gens qu'on s'attaque aux racines du problème, alors qu'il ne s'agit que de continuer le développement. Parce que développement durable dans l'esprit de ces gens-là, et dans la réalité de ce qui se passe sur Terre aujourd'hui, le développement durable, c'est un développement appelé à durer éternellement. C'est-à-dire, on continue la même chose, on continue à développer les activités industrielles qui sont prédatrices, qui sont destructrices des écosystèmes, et jusqu'à la fin des temps, qui va peut-être arriver dans pas si longtemps que ça, si on continue de la sorte. Donc c'est très très important de comprendre que vraiment, le moment est venu de faire un bilan sincère de 40 années d'activité écologiste. Où est-ce que ça nous amener? Est-ce qu'on est arrivé au but qui était quand même d'inverser la tendance, qui était d'arrêter les destructions, qui était de rétablir les équilibres des écosystèmes? Est-ce qu'on est arrivé à ce but ou est-ce qu'au contraire la situation s'est aggravée? Évidemment, la situation s'est aggravée. Donc évidemment, les méthodes qui ont été utilisées n'étaient pas les bonnes. Évidemment, il faut débattre. Évidemment, il faut changer de méthode. Voilà mon sentiment.
Il faut arrêter de changer le pansement, il faut penser le changement. Voilà. Pour revenir à ce que vous parliez tout à l'heure de table ronde, justement, où ces ONG siègent dans des lieux internationaux qui sont un peu loin de l'opinion publique, mais nos auditeurs ont sans doute entendu parler du Grenelle de l'environnement. Et alors là aussi, vous dites que la bande des quatre s'est laissée abuser par les ruses et les risettes de l'État français. Nicolas Sarkozy, je vous cite, hein, Jean-Louis Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet en tête, et a offert sa prestigieuse caution à ce que vous appelez une vulgaire opération politicienne connue sous le nom de Grenelle de l'environnement. Aidez-nous à comprendre ce qu'il y a derrière.
Oh, écoutez, c'est très simple. Bon, on va rire un peu, on va pas non plus tout transformer en tragédie. C'est un peu une opéra bouffe, c'est une sorte de pantomime à la française. Parce que bon, d'abord, premièrement, on dit on fait un Grenelle. Bon, je sais très bien qui a eu l'idée, Franck Laval en l'occurrence, et que j'aime bien par ailleurs.
Vous l'avez reçu sur ce plateau.
Très bien, bon, que j'aime bien. Qui est le président d'Écologistes sans frontières, a eu cette idée au printemps 2007. Bon, et il l'a proposé aux deux principaux candidats de l'élection présidentielle, Ségolène Royal d'un côté et Nicolas Sarkozy de l'autre. Bon, première chose bouffonne, il faut bien le dire, c'est en 2007, on se met autour d'une table en rêvant que les questions écologiques peuvent être traitées à l'échelle française. Là, franchement, bon... On peut... oui, rions. Moi, je préfère en rire. C'est ridicule, disons. C'est tout à fait ridicule. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les questions sont désormais toutes connectées les unes aux autres. Elles sont évidemment planétaires. Et penser qu'on pouvait régler si peu que ce soit des questions sérieuses à l'échelle française, c'était tout simplement ridicule. Donc la première bouffonnerie de cette histoire, c'est qu'on a fait semblant de croire que la France, c'était encore pertinent à l'échelle de la crise écologique et qu'on pouvait discuter des problèmes écologiques à l'échelle de la France. Mais bon, pour le reste, c'est très simple. Nicolas Sarkozy, qui est un homme, qui est un excellent tacticien, je crois que personne ne lui retirera ça, il a vu là une occasion magnifique pour lui de montrer, on s'en souvient pas, mais c'était à l'époque où il ouvrait son gouvernement, disait-on, à gauche, en prenant des ministres comme Bernard Kouchner ou Éric Besson. Et il voulait continuer dans cette voie-là et montrer qu'il pouvait exister une écologie de droite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Les associations écologistes auraient pu ne pas jouer le rôle, mais elles étaient extrêmement flattées qu'on vienne les chercher, extrêmement flattées, elles qui avaient toujours été ostracisées, qui avaient toujours été malmenées. Ça, il faut le reconnaître, ça a été dur pour les associations écologistes et surtout pour les militants de base d'être considérés comme des zozos depuis 40 ans. Ils en avaient marre, il faut le dire franchement, et je les comprends très bien. Mais donc on leur a fait miroiter quoi ? Ben, des claques dans le dos, des petits déjeuners, des dîners, des légions d'honneur, des passages à la télévision, à la radio. Bref, ils ont échangé leur excellente réputation contre, à mon avis, un plat de mauvaises lentilles. Et ils ont donc accordé leur caution à une entreprise politicienne. De quoi s'est-il agi au moment du Grenelle de l'environnement ? Ben, on a annoncé à grand son de trompe qu'on allait faire une révolution écologique. Ça, c'est l'expression de notre président Nicolas Sarkozy. Hein. C'est le 25 octobre 2007. Nicolas Sarkozy fait un discours magnifique devant José Manuel Barroso et quantité d'autres grands personnages européens et même mondiaux. Hein, Al Gore est là, figurez-vous, c'est formidable. Et il annonce la France se lance dans une révolution écologique. Wow, tout le monde applaudit, y compris la bande des quatre. Hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne pour reconnaître que les paroles ont été prononcées. Mais je vous assure que Greenpeace, le WWF, la Fondation Hulot, France Nature Environnement ont applaudi à tout rompre. C'était merveilleux. Tout ce qui avait été demandé était obtenu. C'était merveilleux. Je vous citer qu'un exemple qui montre à quel point c'est ridicule et limite pathétique. La question des pesticides, figurez-vous. Moi, je suis très sensible à cette question. Bon, il y avait des commissions de travail, on se réunissait, on annonçait des choses, on savait pas du tout ce qu'il allait en sortir. Je rassure, il n'en est rigoureusement rien sorti. Et 3 ans et demi plus tard, il n'y a rien. Le bilan est zéro. Mais un jour que j'étais chez moi, tout simplement, en train de travailler, le téléphone sonne et un ami qui était au Grenelle, qui représentait une association, quelqu'un qui est très connu, m'appelle et me dit « Ouais, c'est formidable, on vient d'obtenir une victoire sensationnelle, tu ne devineras jamais, on va réduire en France les pesticides de 50% en 10 ans, c'est génial, vraiment, on est tous survoltés, c'est formidable ». il raccroche, et moi-même, je vous le dis sincèrement, je cherchais dans la tête, bon, j'étais très très sceptique, j'avais déjà critiqué beaucoup le Grenelle de l'environnement, mais je dois reconnaître que là, j'entends ce qu'il me dit, 50% de pesticides en moins en France en 10 ans, waouh ! Je devais reconnaître que c'était pas symbolique, que c'était pas dérisoire, et que ça avait une certaine force quand même. Et j'étais étonné. Après tout, je me suis dit, toutes les bonnes décisions sont à prendre, et quelques minutes après, changement de décor, ça on me l'a raconté, j'étais pas moi-même présent sur place, mais quand la nouvelle a été annoncée dans cette commission, et les journalistes ont commencé à se précipiter pour aller annoncer ça à leur rédaction, etc., comme dans un film américain, et il y a un monsieur Jean-Michel Lemétayer qui était président à l'époque de la FNSEA, donc le syndicat, le grand syndicat ultra-majoritaire de l'agriculture industrielle, Jean-Michel Lemétayer, en entendant cela, d'après ce qu'on m'a raconté, il a commencé vraiment à tirer une figure assez étonnée et déconfite, et il est sorti de la salle. Qu'est-ce qu'il est allé faire ? Je n'en sais rien, parce que je ne suis pas devin, mais j'imagine qu'il a dû aller passer deux ou trois coups de fil fort utiles pour lui. Il est revenu en séance. Est-ce que c'était à lui d'annoncer cela ? Je vous pose la question. Est-ce que c'était au représentant de l'agriculture industrielle d'annoncer cela ? En tout cas, il est arrivé, il a dit... Oh là là, la mesure, c'est pas exactement ça. La mesure, c'est oui, la France s'engage à réduire de 50% l'usage des pesticides en 10 ans, si c'est possible. Et alors là, évidemment.
Ça ne l'est pas, bien sûr.
Évidemment, comme c'est pas possible, comme ça va pas être possible, la mesure disparaît d'elle-même, bien entendu, comme dans un nuage de magnésium. Et c'est fantastique de voir le tour de passe-passe que ça représente. On commence par annoncer une magnifique nouvelle, et ensuite, quelqu'un de bien intentionné arrive à dire oh là là, pas de panique, si c'est possible. Mais évidemment, ça va pas être possible. L'industrie des pesticides, blablabli, blablabla. On peut pas. Et on va garder les pesticides, bien entendu.
Alors on va s'arrêter là pour le moment, juste une dernière réflexion. C'est quand même, bon, vous parlez de la bande des quatre et de leurs actions, de leur impact, de leur rôle. Vous trouvez ça bouffe. Je trouve ça quand même inquiétant parce qu'il y a aussi les Français qui étaient tenus au courant de tout ce qui se passait, qui avaient fondé beaucoup d'espoir dans le Grenelle de l'environnement. Une réponse en une phrase et on passe
oui,
à la suite.
Oui, mais je trouve ça terrible. C'est-à-dire qu'il y a eu un enfumage total de la société française. Les associations écologistes se sont autoproclamées représentantes de la société française. Et moi, je le conteste formellement. Elles ne sont pas les représentantes de la société française pour les questions écologiques. C'est elles qui le disent. Mais moi, je le conteste. Donc elles se sont autoproclamées représentantes de la société française et elles ont enfumé l'opinion française, tout le peuple français pendant des années. Elles ont fait croire à des gens qui déléguaient leur confiance à ces associations, qu'on réglait effectivement des problèmes, alors qu'en fait, on perdait du temps. Et on a perdu 3 ans et demi.
On va faire une pause musicale. On vous retrouve, Fabrice Nicolino, juste après cette pause musicale. Et on va essayer de joindre Marie-Monique Robin, qui nous parlera de son film de Notre poison quotidien, un livre certainement aussi. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour en direct sur le Salon Planète Durable. Nous étions avec Fabrice Nicolino, vous l'avez peut-être un peu suivi, un petit portrait du Club des Quatre, des associations qui, pour l'instant, sont les icônes de référence en France. Nous retrouvons Cyril Souche qui a organisé ce débat pour cdurable.info.
Et nous retrouvons surtout Marie-Monique Robin qui est en ligne, puisque Fabrice Nicolino nous parlait de pesticides. Et Marie-Monique Robin vient de rajouter, après Le Monde selon Monsanto, une enquête. Elle s'est intéressée à ce poison quotidien qui est présent dans nos assiettes. Marie-Monique Robin, vous êtes en ligne ?
Oui, bonjour, je suis à Toulouse.
Bonjour, comment s'est déroulée cette enquête ? J'ai personnellement regardé votre documentaire qui est passé sur Arte tout récemment, mais pour certains de nos auditeurs qui ne l'ont pas vu, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'abord qu'est-ce qui vous a engagé après Le Monde selon Monsanto à vous engager dans cette démarche et à progressivement, par votre enquête, vous apercevoir un peu de comment ça se passe au niveau de l'analyse de toutes ces substances chimiques qui envahissent notre quotidien et qui finalement se retrouvent dans nos assiettes et les instances qui sont censées réglementer ou assurer la sécurité alimentaire sont, semble-t-il, bien dépourvues à suivre votre documentaire.
Alors, quand je faisais mon film et mon livre sur Monsanto, justement, il y a une question qui me revient sans arrêt à l'esprit, qui était: est-ce que Monsanto est un cas unique dans l'histoire industrielle? Alors, évidemment, la réponse est non. Ça m'aurait rassuré qu'il en soit autrement, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La deuxième question, c'était: comment sont testés et réglementés ces produits chimiques? Alors, on estime qu'il y a 100 000 produits chimiques qui ont envahi notre environnement depuis la Seconde Guerre mondiale. 10% au maximum ont été testés. Alors, comment sont-ils testés? Comment sont-ils réglementés? Ça, c'est vraiment le cœur de mon enquête. Et enfin, est-ce qu'il y a un lien entre ces produits chimiques? Alors, je me suis attachée, effectivement, principalement, en tout cas pour le livre, c'est plus large, mais pour le film, uniquement à la chaîne alimentaire, donc les pesticides, les additifs et les plastiques alimentaires, qu'il y a un lien entre ces produits chimiques et ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle l'épidémie de maladies évitables. Alors, ça, c'est les termes de l'OMS. Hein. Donc, évitable, ça veut dire qu'il y a une cause qu'on pourrait éviter. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Alors, ce sont bien sûr les cancers, c'est les maladies neurodégénératives, c'est les troubles de la reproduction, c'est l'obésité, c'est les diabètes, voilà.
Tout ce qu'on retrouve d'ailleurs essentiellement dans nos pays dits développés, entre guillemets.
Oui. Hein, parce que très nettement, parce que si vous allez, par exemple, comme je l'ai fait à Lyon, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, ils ont mis d'ailleurs, n'importe qui peut vérifier ce que je dis, vous tapez CIRC, C-I-R-C, dans un moteur de recherche, et vous verrez, ils mettent en ligne les cartes des cancers. Et vous m'entendez?
Oui, nous sommes toujours là.
Ça fait tout, je ne vous entendais plus. Et c'est très net, là où c'est en rouge, eh bien, c'est l'Europe, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Australie. Et on a par exemple en Inde, où je suis allée pour cette nouvelle enquête, une incidence 30 fois moins élevée de cancer que dans les pays dits développés. C'est très net, quoi. Et ça, c'est les chiffres du CIRC. À noter au passage, d'ailleurs, que le pays qui a le plus de cancers et dans tous les sites, c'est-à-dire tous les organes, etc., c'est la France. Hein. Largement en tête avant les États-Unis, le Canada, l'Allemagne. C'est très impressionnant.
À relier au fait que nous sommes les premiers consommateurs de pesticides dans le monde?
Ah, écoutez, pas dans le monde. Hein. En Europe.
En Europe.
Et les troisièmes dans le monde. Je ne sais pas. C'est une bonne question parce qu'il faut dire les choses prudemment. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes effectivement un grand pays, enfin consommateur. Vous comparez avec l'Allemagne, par exemple. On utilise en Allemagne 30 000 tonnes de pesticides par an. En France, 80 000. Donc, il y a vraiment une très grande différence. Est-ce qu'il y a un lien? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux chiffres sont vrais. Voilà.
Alors, je vous interromps deux minutes. On va écouter un petit extrait du film qui a été diffusé sur Arte.
D'après l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 1 à 3 millions de personnes sont victimes d'intoxication aiguë par les pesticides et plus de 200 000 en meurent.
Nous sommes plusieurs à être victimes de ces produits.
Je suis allé voir une neurologue qui m'a dit: vous avez la maladie de Parkinson.
J'ai un IRM tous les 6 mois parce que des lésions sont apparues au niveau du cerveau.
300 additifs alimentaires sont actuellement autorisés en Europe. Parmi eux, l'aspartame, un édulcorant de synthèse que l'on retrouve dans au moins 6000 produits de consommation courante, son nom de code E951. Pensez-vous que l'aspartame est sans danger?
Oui, je le pense. J'ai demandé à la firme Searle de m'envoyer un échantillon d'aspartame, ce qu'elle a fait. Je l'ai donné à manger à des bébés souris et j'ai observé les mêmes dégâts cérébraux qu'avec l'acide aspartique ou le glutamate. Autant que je sache, Searle n'a jamais conduit les études appropriées pour déterminer si l'aspartame provoque des troubles dans le système nerveux central.
Un haut dirigeant de l'EFSA m'a dit un jour, « Si nous admettions que les résultats de vos études sont valides, nous devrions interdire l'aspartame dès demain matin. » Vous vous rendez bien compte que cela n'est pas possible.
Sur les 100 000 produits chimiques commercialisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, seuls 900 ont été évalués par le CIRC.
C'est très difficile pour nous de faire une évaluation sérieuse des pesticides, parce que la majorité des études expérimentales qui les concernent ne sont pas publiques.
Qu'en pensent les fabricants de pesticides ?
Il n'y a aucune preuve qui permette de faire une corrélation certaine entre apparition de certaines maladies et exposition donc aux produits phytopharmaceutiques.
Donc ce sont les consommateurs qui prennent les risques et les entreprises qui reçoivent les bénéfices.
Si vous voulez vraiment un risque zéro, vous avez raison, il ne faut pas utiliser de pesticides.
Les mauvaises langues affirment que c'est une stratégie de l'industrie d'inonder les experts de données difficiles à vérifier à moins d'y passer des mois.
Les études fiables existent et concluent en l'état actuel de la science à l'innocuité des biberons en bisphénol A.
Les résidus de 212 substances ont été retrouvés dans la quasi-totalité des 2400 Américains testés, avec en tête le bisphénol A et de nombreux pesticides.
Alors voilà, donc Marie-Monique Robin, vous êtes toujours en ligne ? D'accord. Je vais demander à Fabrice Nicolino, qui est à nos côtés, de réagir. Donc là, on voit, hein, on nage entre économie, mauvaise foi, vrais chiffres. Il va falloir s'y retrouver. Vous avez aussi écrit, Fabrice Nicolino, sur les pesticides. Vous rejoignez à peu près les études de Marie-Monique Robin.
D'abord, je veux saluer Marie-Monique Robin.
Bonjour,
Fabrice. Oui, et bravo pour ton travail, bien sûr. Oui, on est d'accord, c'est sûr. Moi, ce qui me frappe le plus, finalement, c'est de voir la résistance de ces pouvoirs qui sont quand même qui sont à la tête d'une industrie que moi, personnellement, je n'hésite pas à définir comme criminelle. Parce que, en fait et en réalité, il y a un nombre d'études tout à fait considérable, Marie-Monique ne va pas me démentir là-dessus, qui prouvent des liens entre l'usage, enfin entre la contamination par les pesticides et des maladies souvent très graves. Et malgré cela, rien ne bouge. Moi, dans le livre que j'avais écrit avec François Veillerette il y a maintenant 4 ans, comme le temps passe, quand même, on a décrit les liens concrets existants entre les administrations de l'État, la grande industrie des pesticides, l'UIPP, représentée par Jean-Charles Bocquet, que Marie-Monique Robin connaît bien. Donc, on a établi ça formellement. On a établi des dates, on a établi toute une histoire. On a raconté une histoire, véritablement, dans le détail. Et rien n'a bougé. On a accusé un certain nombre de gens de choses très graves quand même. Pas un n'a bougé. Ils auraient pu faire des procès, ils auraient pu nous attaquer. Pourquoi pas ? On y était prêt d'ailleurs. Mais ils n'ont pas bougé. En fait, ils comptent sur finalement le temps qui efface tout et ils continuent exactement comme si de rien n'était. J'ai vu un entretien sur libération.fr, enfin sur le net, entre Marie-Monique et Jean-Charles Bocquet. Et je me suis dit, Jean-Charles Bocquet, qui est le directeur de l'UIPP, c'est-à-dire grosso modo l'industrie des pesticides en France, et je me suis dit, mais rien ne bouge, c'est incroyable.
Il y a quand même une chose, Fabrice, qu'il faut noter, dans ce fameux entretien dont tu parles,
ouais.
Qui est toujours en ligne sur Libération Labo, là, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
C'est que pour la première fois, et ça m'a quand même frappé, il ne nie plus qu'il y a un lien entre les pesticides et les cancers chez les paysans. Il dit c'est regrettable, je ne sais pas si tu te souviens de ça,
oui, oui.
Un petit pas, et après il continue en disant il faudrait d'ailleurs que les paysans se protègent, et là je lui dis si vous me parlez des fameuses combinaisons de cosmonautes que sont censés mettre les paysans pour se protéger, il y a un rapport de la FED de janvier 2010 qui montre que ça ne sert à rien, là il s'énerve énormément en disant ce rapport c'est n'importe quoi, d'ailleurs on a écrit, et curieusement quelques jours après je me suis retrouvée encore face à lui sur Radio France Internationale où j'ai resservi l'histoire du rapport de la FED, et là plus un mot, comme quoi
il faut insister, hein.
C'est ça, alors il faut
que... Son agence de com qui est protéine, tu sais, ils ont l'agence de com, c'est protéine, ils ont dû regarder ce qu'il avait dit sur, alibé lors de l'entretien, ils se sont dit là tu arrêtes parce que voilà. Bon.
Ce qui est étonnant, c'est que Marie-Monique, quand on regarde votre documentaire, il n'y a pas seulement ces enquêtes ou ces études qui prouvent les faits et qui sont rejetées et balayées d'un revers de la main par les différents responsables que vous rencontrez. Il y a aussi quelque chose qui est assez curieux, auquel vous vous êtes intéressé de très près, c'est ces fameuses doses journalières acceptables ou admissibles. Et vous nous présentez la manière dont ça a été conçu avec le poison, c'est la dose qu'il a fait, mais en fait... pas forcément. Enfin, votre enquête révèle que on n'est pas forcément au niveau d'une dose, mais que en dose même infinitésimale, en fonction du cocktail de ces substances, on peut avoir des perturbations endocriniennes qui donc ont des conséquences sur la santé qu'on est en train de découvrir aujourd'hui dans nos pays en développement. En développement durable.
L'histoire de la DGA, la dose journalière acceptable ou admissible. C'est vraiment le cœur de mon enquête. J'y passe d'ailleurs, dans mon film, évidemment, pas mal de temps, mais dans mon bouquin, 4 chapitres, parce que vraiment, j'ai passé 6 mois à comprendre comment ça marchait. Et c'est une boîte noire, c'est-à-dire que quand vous ouvrez la boîte, c'est un puits sans fond. Vous découvrez que finalement, c'est un bricolage fait par... Bon, à l'origine, il y a effectivement un Français qui s'appelle René Truot, qui a eu une idée quand même un peu généreuse, on va dire. Il s'est dit, il y a plein de poisons partout, c'est à la fin des années 50, il faut faire quelque chose. Et comme c'était un adepte de Paracels, un médecin suisse du XVIe siècle, qui a dit la dose c'est le poison, et s'est dit bon, on va essayer de trouver une dose pour laquelle il n'y aura pas de problème, donc la dose journalière acceptable de poison qu'on est censé pouvoir ingérer tous les jours sans tomber malade. Sauf que quand on examine de très près comment ça marche, vous vous rendez compte que les données toxicologiques sont fournies par les fabricants et que ces données sont couvertes par le secret commercial. Donc personne ne peut y avoir accès, sauf les experts des fameuses agences de réglementation, lesquels les examinent dans le plus grand secret, à huis clos.
C'est très opaque, donc.
Parfois avec des conflits d'intérêts, vous savez, ils sont liés au même fabricant dont ils sont censés évaluer les produits. Donc un système totalement opaque, ça c'est un vrai problème. Et le deuxième problème, c'est que cette fameuse DGA, vous avez vu dans mon film, quand je les pousse un peu dans leur retranchement. J'ai quand même 17 représentants des agences de réglementation, hein, c'est pas rien. Il y en a pas un pour défendre le système, parce que finalement, on ne peut pas le défendre. Il y en a une qui, d'ailleurs, l'explique très bien. Elle dit finalement, vous savez, si vous voulez le risque zéro, eh bien, il faut effectivement interdire les pesticides, mais c'est une décision politique. Dans la tendance, c'est le mieux que nous puissions faire. Voilà, c'est le mieux que nous puissions faire. Sauf que ce qu'on découvre, c'est que finalement, cette réglementation basée sur la dose journalière acceptable ne tient pas compte de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire des doses, ce qu'on appelle les faibles doses, où, notamment pour les perturbateurs endocriniens, ces hormones de synthèse qu'on retrouve partout dans les pesticides, dans les plastiques comme le bisphénol A ou dans les additifs alimentaires, eh bien, agissent à des doses extrêmement faibles. Parfois, il n'y a pas d'effet à la fameuse DGA, mais il y a des effets à une dose qui est 10 puissance moins 6, vous voyez, c'est vraiment très très faible. Et puis, ça ne tient pas compte non plus de ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire le fait que... Vous savez, quand vous allez en pharmacie, vous avez un médicament et on vous dit, attention, si vous prenez tel autre médicament, il est déconseillé de le prendre parce que vous pouvez...
Il y a des interactions, oui.
Voilà, voilà. Alors ça, c'est absolument inouï de constater qu'on n'a jamais pensé à ça, alors qu'en pharmacie, c'est un principe qu'on connaît depuis tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que ce système de la réglementation tel qu'il a été conçu et qu'il est appliqué depuis 50 ans, il est là pour protéger les produits, il n'est pas là pour protéger les consommateurs. Pour moi, c'est très clair.
Quand on vous écoute, quand on vous lit, parce que notre poison quotidien n'est pas qu'un documentaire, hein, où il y a le livre aussi qui est sorti, qui est encore plus documenté que le documentaire, puisque il permet d'avoir accès directement à un certain nombre de sources que vous citez. Quand on lit et qu'on écoute ce que dit Fabrice Nicolino, il y a de quoi sérieusement perdre le moral. Il y a une auditrice là qui est dans la salle qui nous demande, qui s'appelle Françoise, qui dit, mais alors que faut-il faire? Faut-il descendre dans la rue pour refondre le système?
Alors moi je pense, elle a raison, alors vraiment je suis contente de l'entendre dire ça parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Alors, hier j'étais à Montpellier, avant-hier j'étais à Lens, là je suis à Toulouse, demain je vais à Montbéliard. Donc ça va être partout, on me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Alors on peut faire effectivement accompagner l'agriculture biologique et consommer biologique autant que faire se peut, etc. Mais elle a raison, il faut harceler nos hommes politiques, il faut descendre dans la rue. Il y a un moment où... Il faut bouger, parce que sinon, il ne se passera rien, c'est ce qu'a dit Fabrice justement. Donc il faut bouger, et pourquoi pas manifester, je suis d'accord. Le système, il faut quand même comprendre que l'enjeu est énorme. Hein. Quand vous savez, par exemple, que les hommes qui sont nés en 1970 ou 1980 ont perdu par rapport à leur grand-père 50% de leurs spermatozoïdes. Je veux dire, on est dans l'urgence, là. Et moi, les scientifiques que j'ai rencontrés aux États-Unis, notamment, ils m'ont dit, si on ne bouge pas vite, dans 50 ans, eh bien, le mode de reproduction le plus courant, ça sera in vitro et ça sera le bonheur des laboratoires. Mais vous voyez ce que ça... Il y a urgence.
Mais alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'on manque de leaders pour faire descendre les gens dans la rue? Ils descendront pas spontanément, un petit peu en mauvais ordre. Il faut que tout ça soit rangé, organisé. Apparemment, on peut pas compter sur grand monde aujourd'hui.
Bah, je sais pas. Moi, je vois que partout. Enfin bon, je sais pas. Peut-être que j'ai une vision déformée parce que je vois des gens. Je vois 300, 400 personnes à chaque fois et tout le monde me dit on va faire quelque chose. Je sais peut-être. En tout cas, les citoyens ont la clé. Ils ont la clé. Et la bonne nouvelle dans toute cette pagaille générale, c'est que quand même. On sait d'où ça vient, cette épidémie de maladie. Hein. Donc, ça veut dire que si on agit, on peut arrêter l'épidémie. Alors, pas pour... Il y a des gens comme nous. Moi, j'ai 50 ans, c'est trop tard. Non, mais bon, on protège les générations futures. Donc, on peut agir. Et il faut... La balle, elle est réellement dans le camp des politiques. Elle est dans le camp des citoyens qui peuvent agir. Mais donc, est-ce qu'il faut un leader? Bon, je ne vais pas répondre à cette question, c'est très difficile, mais j'ose espérer que les gens vont enfin réagir... à la mesure de l'enjeu, voilà.
Mais on peut passer d'un scandale à un autre, et il y a un combat dont vous êtes à la première garde, Fabrice Nicolino, sur, qui est d'actualité en ce moment, c'est le gaz de schiste, où les gens, ces fameux permis d'explorer, vous avez été un des tout premiers à alerter l'opinion publique, vous avez notamment lancé la pétition avec José Bové, qui a conduit à cette obtention d'un moratoire. Les gens sont allés dans la rue, sont allés s'opposer. Nous, je vois Cedura.info, et dans les Cévennes, on voit cet autocollant partout, sur les commerces, sur les voitures, etc., gaz de schiste, c'est non. Donc il y a une vraie mobilisation citoyenne sur certaines choses qui sont perçues comme des dangers, où les gens effectivement descendent dans la rue sans qu'il y ait pour autant un leader. Il y a des lanceurs d'alerte comme vous qui donnent l'information et derrière, grâce au réseau, les gens se mobilisent.
Ben moi, je suis très impressionné par ce qui se passe autour des gaz de schiste qui concerne en vérité beaucoup la région parisienne. En deux mots, hein, je vous raconte en deux mots très rapidement. En fait, la France, c'est assez étonnant et même stupéfiant, la France dispose de très grandes réserves de pétrole et de gaz simplement non conventionnel, c'est-à-dire que au lieu d'être dans des réservoirs faciles d'accès comme dans certains pays, ils sont piégés dans des schistes, dans des roches sédimentaires profondes à 2000, 3000 mètres de profondeur, et grâce à des techniques récentes, dont la fracturation hydraulique, on peut désormais espérer aller chercher ces ressources non conventionnelles, donc du gaz qui est du gaz naturel, le même qu'on utilise pour se chauffer, du pétrole, le même que celui qu'on utilise pour nos voitures, et il y en a beaucoup en France, c'est assez extraordinaire, mais c'est comme ça. Et l'affaire a commencé aux États-Unis où il y a, au moment où je vous parle, entre 500 et 700 000 puits de gaz de schiste en activité, ce qui est colossal. Il faut imaginer que des territoires entiers ont été totalement transformés par l'apparition de cette nouvelle industrie. C'est en train de transformer le monde entier. La Chine se lance dans cette aventure. Évidemment, en France, ça ne pouvait pas manquer. La perspective d'avoir accès à du pétrole et du gaz a fait miroiter des profits énormes aux industriels. Par exemple, dans le bassin parisien, ça paraît incroyable, mais c'est absolument vrai, dans le bassin parisien, il y aurait des quantités phénoménales de pétrole dans les schistes, l'équivalent de 70 années de production de pétrole d'un pays comme le Koweït. Vous imaginez, pour le seul bassin parisien.
Oui, mais donc, à quel prix?
C'est une sorte d'Eldorado, voilà, c'est une sorte d'Eldorado. Donc en France, on veut se lancer dans cette aventure qui est une aventure industrielle extrême, au prix de la destruction des paysages, bien entendu, parce qu'il faut des derriques, il faut des puits, il faut des quantités de camions pour apporter de l'eau, des produits chimiques, il faut de nouvelles routes. Donc au prix de la destruction des paysages, au prix de la destruction d'une partie notable des nappes phréatiques, parce qu'en fait, si vous voulez, on fait exploser, on envoie des quantités d'eau phénoménales à une pression très très forte de plusieurs centaines de bars, avec des produits chimiques, on y revient, qui sont extrêmement toxiques, qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, tout ça est absolument certain, hein. Je suis pas en train d'inventer, c'est certain. On envoie ça dans le sous-sol pour fracturer la roche, on fait exploser la roche, le schiste, on récupère de façon mécanique le gaz, on le fait remonter, et on va le stocker ensuite dans des des zones de stockage. Donc c'est un événement majeur, mais quand on fracture la roche en injectant massivement des produits chimiques très dangereux, une partie des produits chimiques est finalement récupérée, mais une partie considérable n'est jamais récupérée, et comme la roche est fracturée d'une façon qui est absolument imprévisible, il y a des fissures partout, et bien sûr, il y a le risque évident, et on le voit aux États-Unis aujourd'hui, que les nappes phréatiques soient durablement polluées par ces quantités phénoménales de produits chimiques. Et figurez-vous que pour un seul puits de forage, il faut entre 15 et 20 000 mètres cubes d'eau. Donc c'est tout à fait phénoménal. Et si on se lance dans cette exploitation de gaz de schiste en France, on aura donc droit à une destruction des paysages, on aura droit à une pollution très grave des nappes phréatiques, à peu près à coup sûr. Et puis au-delà, alors que la France est engagée à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre, ça paraît lointain, mais c'est pourtant très important. Il y a une loi de 2005, la loi sur l'énergie de juillet 2005, nous oblige à diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 4 à l'horizon 2050. Donc il faut commencer maintenant, pas demain, mais maintenant. Si on extrait massivement du gaz et du pétrole de schiste en France, il est certain à 100% que l'objectif ne sera jamais atteint, donc on violera la loi de 2005, et qu'au-delà, on enverra un message à tous les autres pays du monde, faites comme nous, foutez-vous du climat, la crise du climat, on y attache aucune importance, on continue comme au bon vieux temps, la fuite en avant, avec des conséquences qui sont vraiment incalculables. J'ajoute un dernier point qui n'est pas indifférent du tout, c'est que l'affaire est aussi très politique, parce que, je vais aller vite, mais notre président Nicolas Sarkozy, enfin, il y a deux industriels de très haut rang, le Canadien Paul Desmarais et le Belge Albert Frère, qui sont très proches du dossier, tout simplement parce qu'eux deux, ils sont réunis dans des intérêts communs, ils sont l'actionnaire privé principal de Total, ils sont en train de prendre le contrôle d'une ancienne filiale de Total, Arkema, qui produit... Qui commercialise les produits chimiques qui seraient utilisés en cas d'extraction massive des gaz de schiste en France. Donc Paul Desmarais et Frères sont très présents dans le dossier industriel, et ce sont, et c'est un secret pour personne, ce sont deux amis extrêmement proches du président Sarkozy, qui les a décorés tous les deux de l'ordre de Grand Croix de la Légion d'honneur, qui est la distinction la plus élevée en France. Il y a 60 personnes dans le monde qui sont les détenteurs vivants de cette exceptionnelle médaille française. Donc 60 personnes, dont deux s'appellent Albert Frère et Paul Desmarais, qui sont des industriels très proches du dossier. C'est inquiétant.
Pour mobiliser la population et pour répondre à notre auditrice, il faudrait que les Français descendent dans la rue aussi.
Ah, mais ils le font, là. Pour les gaz de schiste, je peux vous dire tout de suite.
Pour ça, pour la problématique environnementale dans sa globalité,
oui,
tous les problèmes
sûr.
Qu'on vient de citer.
Écoutez, moi j'ai pas forcément exactement le même point de vue que Marie-Monique. Bien sûr, je pense qu'il faut évidemment réagir, et c'est évident qu'il faut s'unir, mais surtout, comme l'a dit Marie-Monique, il faut certainement descendre dans la rue. Mais surtout, je crois qu'il est extrêmement urgent d'imaginer ensemble, nous les humains, des formes démocratiques et politiques nouvelles. Car la situation est nouvelle. Donc les formes anciennes, les formes du passé, que ce soit les associations, que ce soit les partis, bon, ils ont eu leur utilité et leur sens, j'en discute pas une seconde. Je constate qu'on est en face de quelque chose de nouveau, de très compliqué à saisir, et qu'il est urgentissime pour nous tous et pour notre avenir que nous soyons capables d'imaginer des formes nouvelles. Alors, ça va prendre du temps, certainement. Il faut commencer par quelque chose. Donc, je suis tout à fait d'accord pour des manifestations. Et d'ailleurs, je co-organise avec d'autres, bien sûr, des manifestations contre le projet d'extraction des gaz de schiste. Il y a en projet quelque chose de formidable. Je le dis là, vraiment en avant-première. On a le projet d'organiser un gigantesque rassemblement cet été, au début du mois d'août, en France, consacré aux questions de l'énergie. Je considère que la société française a le besoin aujourd'hui de se poser cette question, de savoir de quelle énergie elle a besoin, de quel niveau de consommation énergétique elle a besoin, en dehors de l'influence des réseaux d'État, en dehors de l'influence des industriels. C'est à la société, à mon avis, de décider du niveau de consommation énergétique qu'elle doit avoir. Et si on y parvient, notamment au cours de ce rassemblement qui va voir arriver en France si on y parvient, des Chinois, des Japonais, des Africains, des Latino-Américains, des Nord-Américains, évidemment des Européens de partout, si on arrive à discuter ensemble de cette question fondamentale, alors on peut imaginer un scénario énergétique qui nous permettrait, qui n'est pas fou, et qui nous permettrait à la fois de se passer du nucléaire et à la fois de diviser nos émissions de gaz à effet de serre, comme la loi de 2005 le prévoit.
Donc si tout c'était presque perdu, on peut encore faire quelque chose, en l'occurrence s'informer. Je rappelle Marie-Monique Robin, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je sais que vous continuez votre travail pour faire connaître notre poison quotidien, qui est en livre, qui est en documentaire. Vous trouverez toutes les...
Et qu'on peut retrouver hein, sur le site d'Arte, je crois.
Sur le site d'Arte, on a également toutes les références, y compris de votre site sur cedura.info. Et Fabrice Nicolino, je rappelle votre bombe, hein, Qui a tué l'écologie, livre le plus récent, mais qui a été précédé de pesticides, révélations sur un scandale français, de bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. Bref, des journalistes, des enquêteurs engagés qui nous informent, qui nous aident à savoir, comprendre, pour pouvoir agir.
Marie-Monique, courage.
Merci. Au revoir.
Merci à vous deux d'être venus sur Fréquence Terre. Nous nous retrouvons demain sur le salon Planète Durable.